Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique. Deux semaines après les attentats de Paris, François Hollande s'est attaché cette semaine à tenter de mettre sur pied une coalition internationale contre Daesh. Le chef de l'État français a rencontré le Britannique David Cameron, l'Américain Barack Obama, l'Allemande Angela Merkel, le Russe Vladimir Poutine. De coalition il n'y aura pas. On parle désormais de coordination ou de coopération. Le réalisme reprend toute sa place. Regard sur les options qui sont sur la table dans la lutte contre l'État islamique. Alors que la France envisage désormais que des forces du régime syrien puissent être associées à la lutte contre Daesh. Nos invités par téléphone, Myriam Benrad, politologue, spécialiste du monde arabe, chercheur à l'Institut de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient, l'IREMAM à Aix-en-Provence, ainsi qu'à la Fondation pour la recherche stratégique. Bonjour.
Bonjour.
François Giré, directeur de recherche à Paris 3 Sorbonne, directeur de l'IFAS, l'Institut français d'analyse stratégique. Bonjour.
Bonjour.
Et Bayram Balger, chercheur au CNRS, série Sciences Po, spécialiste de la Turquie, de l'Asie centrale. Bonjour.
Bonjour.
L'énergie du président français a tenté de rassembler une coalition autour du projet de lutte contre Daesh témoigne de la volonté de briser l'aura d'invisibilité de l'État islamique et de l'importance de ne pas laisser les territoires disposer de paradis dans lesquels ils peuvent librement entraîner et préparer de nouvelles attaques. Au lendemain des attentats du 13 novembre, François Hollande déclarait que la France était en guerre et que l'État islamique serait détruit. Le résultat quant à la volonté de mettre sur pied une coalition internationale est, disons, plutôt maigre. Alors que, et on l'a vu cette semaine, les risques sont réels face à des opérations de combat non coordonnées, avec l'exemple de l'avion russe descendu par la Turquie. Myriam Benrad, la difficulté d'agir en Syrie est chaque jour plus apparente.
Oui, je pense qu'il n'y a effectivement pas de coalition, mais de ce point de vue, les choses n'ont pas énormément évolué, parce que dans tous les cas, on ne peut pas avoir de coalition autour d'agenda et de vision du conflit syrien et surtout du futur de la Syrie aussi différentes, divergentes. Donc fondamentalement, le désaccord par exemple sur la question d'Assad n'a pas changé, même si la France aujourd'hui déclare vouloir intégrer un certain nombre d'éléments du régime, ça ne change pas fondamentalement l'idée, en tout cas du côté français et occidental, qu'il n'y a pas d'avenir avec Bachar, là où la Russie et l'Iran considèrent qu'au contraire, il faut absolument sauver le régime. Du point de vue maintenant des réalités syriennes, il faut quand même dire que le régime ne tient pas à grand-chose et est assez largement retranché. Que depuis l'intervention militaire russe, en réalité, les territoires qui ont été repris aux djihadistes sont très très limités. Et du côté des forces dites rebelles, il y a eu une montée en puissance de l'État islamique qui est venue éclipser un certain nombre de groupes. La Syrie aujourd'hui est morcelée et cette cacophonie, je dirais, autour du conflit ne fait qu'approfondir ces divisions sur le terrain, le chaos qui règne aujourd'hui dans le pays. Et je crois qu'il est même aujourd'hui irréaliste finalement de penser qu'on peut sauver la Syrie telle qu'on l'a connue auparavant. Moi je vois plutôt un scénario de partition avancée. Et surtout de somalisation qui va durer dans le temps. Mais il est vrai qu'au plan diplomatique, l'absence de coordination et ces opérations qui sont elles aussi assez chaotiques du côté des acteurs engagés aggravent la situation avec une situation par ailleurs humanitaire et civile qui est désastreuse.
On développera un petit peu plus loin dans l'émission. François, j'ai un commentaire sur ce que vient de dire Myriam Benrad.
Le problème, c'est qu'on parvient à se mettre d'accord sur des objectifs, disons, négatifs. C'est par exemple, comme l'avait dit le Premier ministre après les attentats de Paris, anéantir Daesh, mais que on ne sait pas du tout définir des objectifs positifs. C'est-à-dire, admettons qu'on anéantisse Daesh, qu'est-ce qui se passe après ? Alors, est-ce que c'est un retour à ce qu'était la Syrie sous le clan Assad ? Ça paraît extrêmement difficile. Est-ce que la Syrie est encore un État viable dans l'état actuel des choses ? Non. Mais en même temps, aucun des acteurs ne veut un morcellement, un éclatement de la Syrie. Et donc, il vaut mieux retrouver les mêmes frontières dans une certaine forme de stabilité. Sinon, l'instabilité frontalière a des risques de dégénérer. Elle peut dégénérer au Liban. Elle peut dégénérer naturellement dans la zone kurde, à la fameuse frontière avec la Turquie, et il faut à tout prix éviter ça. Donc, si vous voulez, le plus petit dénominateur commun consiste à dire on veut conserver la Syrie dans ses frontières. Maintenant, avec quel régime et avec quel dirigeant, on n'en sait rien, et on diverge complètement là-dessus. Et effectivement, à partir du moment où on n'est pas capable de définir des objectifs communs positifs, on n'est pas capable de monter une coalition. C'est l'évidence même. Il aurait fallu se poser la question avant de déclarer la guerre.
Bayram Baljé, la France qui envisage désormais que des forces du régime syrien puissent être associées à la lutte contre Daesh?
Je crois malheureusement que ça ne réglerait pas le problème, parce que je pense que Myriam l'a bien résumé tout à l'heure, c'est qu'en fait le régime de Bachar al-Assad, on a l'impression qu'en fait il ne tient plus à grand chose. Certes, ça fait des années qu'on le dit, mais il est toujours debout. Mais en même temps, en tant que structure militaire capable de nous aider à nous débarrasser de Daesh, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de crédible, parce qu'en fait, de fait, il est beaucoup plus le chef d'une espèce de milice criminelle que d'un État organisé avec une puissante armée. Donc je me demande si, pour nous, occidentaux, nous allier avec Bachar pour soi-disant combattre le Daesh, je pense que ça sera inefficace et on perdrait beaucoup aussi en crédibilité. Avec le peu de crédibilité qui nous reste déjà, on perdrait pratiquement tout ce qui nous reste, j'ai l'impression, dans une telle décision. Et j'aimerais rajouter une chose, c'est qu'en fait, effectivement, je pense qu'on est dans une logique de querelle, de pratiquement de guerre froide, d'un nouveau style dans la région, et qu'en fait, il y a un manque de sincérité chez les uns et les autres, un manque de sincérité dans le combat contre le Daesh, parce que j'ai l'impression que aucun des acteurs, soi-disant engagés dans la lutte contre le Daesh, n'est complètement sincère. Ni les Russes, bien évidemment, ni l'Arabie Saoudite, ni la Turquie complètement sincère. Même nous, on a l'impression qu'on n'est pas tout à fait sincère, parce qu'on sait que le fond du problème depuis 4 ans, c'est quand même Bachar al-Assad, et on s'attaque au problème du Daesh, qui, à mon avis, tant que le problème, le sort de Bachar n'est pas réglé, on aura du mal à être efficace dans la lutte contre le Daesh, malheureusement.
Alors, manque de sincérité, Bayram Baljé vient de le dire, Myriam Benrad, chez les uns et les autres, c'est-à-dire les voisins et les principaux protagonistes, finalement, dans ce conflit en Syrie. Qu'est-ce que l'on peut dire de la situation interne aujourd'hui en Syrie et en Irak, finalement, aussi, Myriam Benrad?
Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, dans la mesure où, si on prend le cas des États de la région, on voit très bien que les deux territoires irakiens et syriens sont les lieux de guerre par procuration, d'expression de rivalité, de quête hégémonique qui ne cesse pas. Et de ce point de vue, l'idée qu'avait proposée Barack Obama, enfin qui articule d'ailleurs toute la stratégie de désengagement américain, d'engagement au contraire de ces États régionaux pour essayer de contribuer au règlement de ces crises, c'est une illusion. Enfin, on l'a bien vu, si on prend le cas de l'Iran et de l'Arabie Saoudite, il n'y a eu aucun rapprochement. Au contraire, les rapports se détériorent entre voisins. Si on prend le cas de la Turquie, c'est très clair aussi. Donc il n'y a pas aujourd'hui ni de coalition internationale, ni d'ailleurs d'entente régionale autour des deux brasiers syriens et irakiens. Du point de vue intérieur, c'est l'horreur. Et je crois qu'il faut le dire aujourd'hui clairement. On a des populations qui font les frais, en fait, des bombardements avant même les djihadistes. Je vous donne un chiffre, hein. Les bombardements toucheraient à moins des 2/3 les djihadistes en faisant, en revanche, des milliers de morts au sein des populations civiles. Les Syriens qui sont sur place décrivent une situation absolument horrifique, avec des bombardements finalement qui s'abattent sur eux sans qu'ils sachent d'où ça vient. Et donc on est dans une situation absolument absurde en réalité, et surtout meurtrière pour ces gens qui n'ont pas d'autre choix que de fuir. D'ailleurs, de ce point de vue, je crois qu'il faut aussi dire que le flux de réfugiés ne va pas cesser, parce qu'on est absolument incapable sur le terrain de gérer ces dynamiques. Et ça renvoie encore à ce qui vient d'être dit par ailleurs, au fait qu'il n'y a pas de stratégie et pas de vision pour un après. Donc la tendance, même si la Syrie était formellement contenue au sein de ses frontières, c'est qu'en réalité, on aura tout de même des effets de contagion sur le long terme, et surtout une situation intérieure de déliquescence, de délitement qui va se poursuivre. Il n'y a plus d'État. Je pense même qu'on peut aller jusqu'à dire qu'il n'y a plus de société. Dans le cas de l'Irak, les dynamiques sont un peu différentes, même si l'État central est lui aussi menacé, d'ailleurs pas seulement par Daesh, mais par les milices chiites qui aujourd'hui font concurrence au pouvoir de Bagdad. Donc rien n'est réglé, et je crois qu'il faut bien le dire, parce que tout le monde va de son petit commentaire sur d'éventuelles solutions à ces crises. Ce sont des crises inscrites dans le temps long, et en réalité, nul ne sait ce qu'il en sortira.
Effectivement, François Géré et Bayram Baljé, l'Institut syrien pour la justice, qui est une ONG à l'épine, a calculé qu'en octobre, dans le seul gouvernorat d'Alep, les Sukhoi russes ont mené 110 attaques contre des zones d'habitation, soit presque autant que contre des sites militaires. L'ONG souligne qu'ont été pris pour cible des hôpitaux, des écoles, des mosquées. C'est tout ce que vient de dire Myriam Benrad, François Géré.
Oui, c'est évidemment à la fois exact et horrifiant. Le problème, c'est que on n'est pas dans une guerre classique. On est dans une guerre civile. et une guerre civile qui est naturellement complexifiée par l'intervention de puissances extérieures.
Oui, civiles de moins en moins, finalement.
Il y a quand même des acteurs locaux. Leur nombre, d'ailleurs, tend effectivement à diminuer à force des combats. Ce que je veux dire, c'est que du point de vue strictement militaire, on est dans une situation d'interpénétration entre les combattants et les populations civiles. Alors, il y a deux méthodes aujourd'hui qui, à mon avis, sont pas meilleures l'une que l'autre. Les frappes aériennes russes qui, donc, touchent de manière quasiment indiscriminée les adversaires du régime d'Assad et les populations civiles. Et puis, il y a les frappes de la coalition, disons, pour faire vite, occidentale avec la Jordanie, qui, toujours par la voie aérienne, cherche à frapper des cibles éloignées des populations. Mais là encore, il ne faut pas se faire d'illusions. Quand on annonce en France qu'on a frappé des centres de commandement et d'entraînement, il n'y a pas que des centres d'entraînement et de commandement en Syrie. Daesh, ce sont des groupes armés au milieu des populations. À Raqqa, ils sont au milieu des populations. À Mossoul, ils sont au milieu des populations. Alors, de deux choses l'une, si vous voulez faire éviter de frapper les populations civiles, vous allez frapper dans le désert, très exactement. Donc, vos frappes ne servent rigoureusement à rien. Et on en arrive, évidemment, à la conclusion logique. Si on veut arriver à ces objectifs, à mon avis, peu réalistes, du moins dans le court terme, c'est-à-dire l'anéantissement de Daesh, comme l'a dit le Premier ministre le lendemain des attentats, évidemment, comme l'a aussi rappelé le ministre de la Défense, il faut envoyer des troupes au sol.
Et de
comme
ça,
ni les Américains, ni les Français, ni aucun pays occidental n'entend envoyer des troupes au sol, on en revient naturellement à ceux qui sont sur le terrain. On pense évidemment aux Kurdes, mais les Kurdes ne feront pas le travail pour tout le monde. Et dans ces conditions-là, il est bien évident qu'on est enfermé dans une espèce d'impasse où on ne sait pas du tout comment on va sortir, d'où, comme je le disais, le danger d'avoir déclaré une guerre sans savoir quel but positif on espère en retirer.
Et l'impasse, Bayram Belge, on semble y être chaque jour encore plus profondément ancré.
Effectivement, mais je pense que pour ce qui est de... Parce que tout à l'heure, on a fait allusion un peu au bombardement des Russes, mais j'ai envie de dire, l'objectif des Russes en Syrie, en fait, l'objectif de leur débarquement militaire n'est pas militaire, il est politique. On sait depuis le début, ça n'a pas changé. Leur objectif, c'est pas de nous débarrasser du Daesh, parce que j'ai presque envie de dire, en fait, que ça les sert, le Daesh, parce que leur objectif, depuis le début, et on le voit tous les jours, c'est de sauver, ou en tout cas de prolonger la vie du régime de Bachar al-Assad. Et là aussi, il y a une espèce d'hypocrisie de leur part. Et par ailleurs, je dirais que militairement, malheureusement, les Russes, ils vont faire la même chose, on sait comment ils procèdent. Ils l'ont déjà fait pendant la première et la deuxième guerre de Tchétchénie. Ils feront la même chose. Ils font pas la part des choses entre l'objectif militaire et civil. Et ça, ils s'en foutent complètement. Moi, face à un acteur comme ça, quand on nous dit la Russie va nous aider à monter une coalition contre le Daesh, je n'y crois pas. C'est pas possible. Comment voulez-vous que Poutine, qui est issu des rangs du KGB, on sait très bien comment il procède depuis 15 ans, 20 ans qu'il est au pouvoir maintenant, aussi bien en Ukraine qu'en Tchétchénie qu'ailleurs, c'est que comment peut-on faire confiance à un homme pareil? Ce n'est pas possible. Donc moi, je pense que on ne peut pas faire confiance à Poutine parce que ses objectifs ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres. Toutes les actions de la Russie depuis qu'elle est présente militairement en Syrie, on le voit pratiquement chaque jour.
Alors, Myriam Benrad, avec la multiplication des attentats ces dernières semaines, ces derniers mois, on dit Daesh affaibli. Qu'est-ce qu'il faut penser de ces affirmations?
Je pense qu'il faut prendre beaucoup de précautions par rapport aux discours officiels qui émanent évidemment du côté russe, mais aussi du côté occidental. Parce que j'aimerais tout de même dire que si les bombardements russes sont indiscriminés et ont fait le plus de pertes civiles, en tout cas si on prend le cas de la Syrie, c'est très clair, c'est des morts qui se comptent par milliers. Les dites frappes chirurgicales du côté occidental, c'est aussi une vaste blague, juste pour vous donner une illustration de mon propos. Le Pentagone a proposé récemment, comme admission indirecte des pertes civiles qui sont faites par ces bombardements, d'indemniser les familles de victimes. Donc il n'y a pas de discours, si vous voulez, aujourd'hui qui assume ces dommages collatéraux, hein, comme on les appelle du côté américain, mais qui sont très importants. Alors, je pense qu'on est arrivé, en fait, dans une guerre de propagande à beaucoup d'égards. On le voit, toutes les parties se renvoient la responsabilité. On a très peu d'informations, en fait, qui viennent du terrain. Les ONG commencent à faire un travail de recensement, comme j'ai dit, des pertes civiles. On a des discours un peu alternatifs qui se développent, qui viennent d'activistes syriens, irakiens, mais En réalité, on a une opacité qui pèse sur ces deux situations. Mais le point très important qui a été soulevé, c'est qu'effectivement, on ne sait pas finalement aujourd'hui, quand je disais que c'était devenu un peu le théâtre de l'absurde, on ne sait pas aujourd'hui à qui on fait la guerre. Parce que Daesh, effectivement, c'est un mouvement de guérilla, un mouvement terroriste, certes, mais aussi un mouvement de guérilla qui a un discours révolutionnaire qui est très implanté dans les territoires qu'il tient, qui vit parmi la population. Donc on a toujours une avant-garde irakienne et syrienne qui est très présente. Donc ce n'est pas un mouvement qu'on peut frapper, qu'on peut cibler depuis les airs de manière simple. Par ailleurs, ce qu'il faut quand même aussi dire, c'est qu'il n'y avait plus rien. Lorsque Daesh a pris le pouvoir, il faut quand même le dire, les États s'étaient effondrés, en tout cas du côté de l'Irak. Quand Daesh a pris Mossoul en 2014, eh bien, c'était une situation de grande précarité. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière Daesh? C'est aussi la question, parce que l'idée, ce n'est pas de créer le vide. C'est évidemment de permettre à des populations de retrouver une vie digne. Des populations qui, comme je dis, pour l'instant, vivent dans l'horreur absolue. On n'a absolument pas, en réalité, de stratégie, ni du point de vue militaire, ni du point de vue politique. Parce que quand on nous sert depuis plus d'un an que la situation est politique et qu'on n'a absolument pas d'interlocuteur en face, d'ailleurs ça vaut aussi en partie pour l'Irak, parce qu'on a un gouvernement qui est délégitimé auprès d'un certain nombre d'Irakiens, et pas seulement auprès des sunnites d'ailleurs, qui sont nos interlocuteurs. Quelle est notre stratégie politique et surtout vers quel modèle s'oriente-t-on? Et quand je parlais tout à l'heure de partition, je vais finir là-dessus. Quel est l'avenir de ces deux États? Parce que moi, je ne crois pas qu'on reviendra à des États centralisés. Donc, quels sont les arrangements qu'on peut passer pour permettre le rétablissement de la sécurité sur le plan local, permettre une reconstruction qui prenne en compte le fait qu'on ne reviendra pas à l'avant? Et là, je suis d'accord avec ce qu'a dit Bayram. Je crois que les Russes sont complètement dans une logique à la fois meurtrière et irréaliste de croire qu'ils vont pouvoir sauver un régime qui a déjà rendu l'âme et qui a été prêt quand même, il faut le dire, à sacrifier sa population entière au nom de sa survie. Ce qu'on avait d'ailleurs déjà observé du temps de Saddam Hussein en Irak. Donc c'est catastrophique et je crois que là, il est temps, même si on n'arrive pas à une grande coalition, de moins de s'entendre sur, à minima, ce qu'on peut faire en termes de sécurité locale, de cesser le feu, de protection des populations, parce que c'est une vaste boucherie à laquelle on assiste aujourd'hui.
Et on a le sentiment, François Géré, que ce qu'évoque à l'instant Myriam Benrad est très 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 loin des préoccupations des uns et des autres, globalement.
Oui, on est dans une situation où effectivement les intervenants extérieurs poursuivent des buts extrêmement différents qui sont en fait relativement incompatibles. Alors, je voudrais ajouter deux choses. La première, c'est que les Russes, pas plus que les Iraniens d'ailleurs, ne se focalisent, et à mon avis, depuis longtemps, on a eu tort de se focaliser sur Bachar el-Assad ou pas Bachar el-Assad. Le problème, c'est Syrie ou pas Syrie. Les Iraniens, pas plus que les Russes, n'ont une affection débordante pour Assad et pour son clan. Ce qu'ils veulent, c'est une Syrie qui soit maintenue dans ses frontières traditionnelles, une Syrie qui soit stable, ça veut dire sous un régime autoritaire, et une Syrie qui, naturellement, fasse la part des intérêts de ses alliés, c'est-à-dire qui assure à la Russie des bases et donc une présence en Méditerranée orientale, et en ce qui concerne l'Iran, d'avoir la Syrie de son côté, de manière à faire pièce à son ennemi fondamental, c'est-à-dire l'Arabie saoudite. Alors, dans cette diversité, cette complexité d'enjeux, eh bien, la France se trouve complètement, complètement à contre-pied. À chaque fois, elle était à contre-pied parce qu'elle faisait de Bachar el-Assad une précondition à toute espèce de négociation. Aujourd'hui, elle est à contre-pied parce qu'elle va voir les Russes en disant « Ah ben, on pourrait peut-être se mettre d'accord et travailler avec les forces armées régulières syriennes ». Et aujourd'hui, on ne parvient pas à articuler véritablement un but politique qui corresponde à la stratégie dont on aurait besoin.
La France à contre-pied géopolitique, nous retrouvons nos invités Myriam Benrad, François Géré et Bayram Balger dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la crise syrienne. Nous retrouvons nos invités Myriam Benrad, politologue, spécialiste du monde arabe, chercheur à l'Institut de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient, l'IREMAM à Aix-en-Provence, et à la Fondation pour la recherche stratégique. François Giré, directeur de recherche à Paris 3 Sorbonne, directeur de l'IFAS, l'Institut français d'analyse stratégique, et Bayram Balger, spécialiste de la Turquie et de l'Asie centrale, chercheur au CNRS et au CERIS Sciences Po. Bayram Balger, la crise du Sukhoi 24, cette semaine, un avion militaire russe a été abattu près de la frontière turque ou dans le ciel turc. Comment interpréter cet événement dans un contexte international déjà très mouvementé? On en a beaucoup parlé dans la première partie de l'émission. Est-ce que cette crise menace la paix entre la Turquie et la Russie?
Effectivement, c'est quelque chose d'assez important, d'assez majeur, d'assez grave, ce qui s'est passé entre la Turquie et la Russie. Et je suis impressionné de voir, en fait, que jusque-là, il n'y a pas eu de grand clash, parce qu'en fait, dans la politique syrienne, tout oppose la Turquie et la Russie. Elles n'ont pas du tout la même vision des choses. Elles sont vraiment dans des positions diamétralement opposées. Mais pour ce qui est de ce qui s'est passé il y a quelques jours maintenant, je pense que d'abord, c'était un acte irresponsable, aussi bien de la part de la Russie que de la Turquie. Parce que quand même, ils auraient pu faire des efforts pour maintenir ce dialogue quand même qui perdure depuis quand même 4 ans, bien que tous les opposants en Syrie. Mais en même temps, je dirais que malheureusement, Poutine, il n'y a que ce langage-là qu'il comprend. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que je ne pense pas que cela va non plus provoquer une rupture totale des relations entre la Turquie et la Russie, même si effectivement pendant encore quelques jours il y aura des tensions assez fortes entre les deux pays. Je ne pense pas qu'il y aura une rupture totale parce qu'il y a encore un besoin réciproque. La Turquie, elle est dépendante du gaz russe. Alors certes, les Russes, ils pourraient peut-être menacer la Turquie sous forme de sanctions en arrêtant de vendre du gaz à la Turquie, mais ils ont aussi besoin de vendre leur gaz parce que c'est quand même important pour leur commerce. Et pour ce qui est de la Turquie, elle a aussi besoin de maintenir des relations importantes avec la Russie, parce que la Russie est un grand marché, un immense marché pour les entreprises turques qui sont très implantées, notamment dans le domaine de la construction. Et puis je pense qu'il y a même aussi, il y aura la raison qui va l'emporter, parce qu'ils n'ont pas intérêt, il y a déjà suffisamment de tensions et de conflits dans la région. Je ne pense pas que ça ira beaucoup plus loin. Je pense qu'ils vont essayer d'obtenir une espèce de réduction de la tension entre les deux pays dans le conflit syrien.
Donc la Turquie et la Russie, on l'a compris avec ce que vous venez de dire, sont deux pays qui sont condamnés à s'entendre. Alors quelques mots sur le sommet extraordinaire qui se tient dimanche entre l'Union européenne et Ankara à Bruxelles. Un sommet assez important, Bayram Balger, pour les Européens qui ont besoin de reprendre d'une certaine manière leur destin en main. Il va falloir décider d'une ligne de conduite sur le cas turc. Ça va être compliqué, mais...
Oui, ça va être compliqué, effectivement, mais ce qui est regrettable dans ce qui se passe entre l'Union européenne et la Turquie, c'est qu'en fait, la Turquie était candidate depuis longtemps à l'entrée à l'adhésion. Et depuis quelques années, on a compris, aussi bien du côté turc que du côté européen, que c'était pas demain la veille que la Turquie allait entrer dans l'Union européenne. Et ce qui est regrettable, c'est qu'en fait, maintenant, on sent qu'il y a une vraie crise migratoire entre l'arrivée des migrants qui viennent de Syrie, et d'ailleurs aussi, mais surtout de Syrie, et qui viennent en Europe. Et je pense que c'est dans ce contexte-là qu'on a l'impression que les Européens ressortent un peu le dossier de l'adhésion de la Turquie pour essayer. Et là, je trouve qu'il y a une part aussi de... presque de...
carotte et bâton.
Oui, il y a ça, mais en même temps, donc du coup, et à son tour, Erdogan, il en vient à instrumentaliser les questions des migrants, mais en même temps, il fait de la politique. Pratiquement toutes ces difficultés en Turquie, on sait bien en politique intérieure qu'en politique extérieure, elles viennent de la crise syrienne. Dans ces conditions-là, je pense qu'il instrumentalise la question des migrants pour essayer de mettre la pression sur les Européens, y compris dans des questions qui n'ont rien à voir avec la crise syrienne. Mais je dirais que beaucoup de chefs régionaux dans la région font à peu près le même type d'usage de cette crise syrienne, malheureusement.
Et ce qu'on voit, ce sont des Européens extrêmement démunis dans leur politique vis-à-vis de la Turquie, démunis, désunis, et puis d'une certaine manière, pris au piège. Je ne sais pas si Myriam Benrad veut réagir.
Oui.
Moi, je pense qu'il faut aussi que les Européens prennent leurs responsabilités, parce que là, on a tendance à leur trouver des grands responsables. Mais pas la Turquie qui est responsable du fait que l'Union européenne a été incapable d'articuler une politique à l'égard des pays de la région. Je voudrais quand même rappeler, d'une part, le retrait total de l'Union européenne au moment de la guerre d'Irak. Il n'y a pas eu d'engagement militaire de certains États, à commencer par la France, mais tout de même, ça s'est traduit du point de vue de la politique extérieure par une absence de politique à l'égard de l'Irak. Ensuite, l'épisode 2011 a tout de même laissé un goût amer à un certain nombre de personnes en Europe qui croyaient en un engagement des Européens envers le pourtour méditerranéen, leur voisinage, ce qui n'a absolument pas abouti. Donc je crois que là, ce que les Européens prennent en plein visage, c'est surtout l'absence d'une politique extérieure coordonnée, intelligente, et qui soit soit visionnaire. On ne peut pas blâmer la Turquie pour tous les maux, alors que la Turquie joue sur plusieurs tableaux, est une politique ambiguë de soutien en partie à certains groupes que l'on peut condamner, c'est une chose. Et je crois qu'Erdogan, de ce point de vue, est un fin stratège et très machiavélique aussi sur plusieurs points. Mais les Européens ne peuvent pas non plus s'absoudre et considérer finalement qu'ils n'ont pas leur part de responsabilité dans ce désastre. Et je pense qu'il faut tout de même dire que ces flux migratoires ne vont pas s'arrêter, que la Turquie ne pourra pas faire non plus fonction d'état tampon sur la très longue durée, et qu'il va falloir au niveau européen se prendre en main. Parce que ni les États-Unis, ni la Russie, ni la Turquie ne vont se substituer à ce qui devrait être une politique européenne beaucoup plus intelligente. Et aujourd'hui, on le voit, les Européens eux-mêmes sont complètement dans la confusion, dans la division. Donc il est bien temps que l'Europe se réveille de ce point de vue, je pense.
François Géry, je me tourne vers vous. Bien évidemment, tant que la Turquie ne coopérera pas, rien ne sera possible en Syrie, ça c'est clair aussi. Les Américains, définitivement, ont décidé de ne pas y aller, de gérer les choses de façon très extérieure. Est-ce que cette position, là aussi, va être tenable ?
Le président américain, une fois de plus, il est préoccupé par les affaires intérieures américaines. Il aborde une année d'élection présidentielle qui sera dominée donc par les primaires, par le débat entre les deux candidats. Et lui, son objectif, c'est de faire triompher Mme Clinton. Or, l'opinion américaine, qui a déjà été assez agacée de voir que le président finalement autorisait le maintien d'une certaine quantité de troupes américaines en Afghanistan, l'opinion américaine ne veut pas entendre parler d'un engagement de troupes américaines au Moyen-Orient. Et il faudrait vraiment un événement tout à fait exceptionnel aux États-Unis même pour qu'il y ait un revirement de l'opinion. Et puis d'autre part, le président américain est coincé par le Congrès républicain, et puis il est coincé aussi par ses amitiés avec un certain nombre de pays de la région, à commencer par l'Arabie Saoudite. Sur la question syrienne, il ne faut pas contrarier l'Arabie Saoudite. Donc les positions un peu fluctuantes de John Kerry disant « bien sûr, on ne va pas maintenir Bachar el-Assad, mais ce qu'on veut quand même, c'est pouvoir mettre en œuvre un gouvernement de transition où il puisse jouer éventuellement un certain rôle pendant un temps limité », ces espèces de circonvolutions du discours traduisent un malaise qui est un malaise intérieur et qui est un malaise par rapport aux alliances des États-Unis, mais ce n'est pas uniquement les États-Unis, c'est également vrai pour la France, avec un pays qui porte une écrasante responsabilité dans la formation, le développement et le financement à travers des organisations dites caritatives de ce qu'est aujourd'hui Daesh. On a créé un monstre, il y a quand même des responsables à cela et on ne sait pas comment s'en débarrasser.
Alors justement, vous parliez de l'Arabie Saoudite, l'accord sur le nucléaire iranien, est-ce qu'il donne cet accord à Washington une puissance de levier sur Téhéran? Alors je ne sais pas qui veut répondre, François Géré ou Bayram Elgé.
Oui, je crois que l'Iran a aussi ses propres calculs à long terme. Pendant toute la période où a duré la crise du nucléaire entre l'Occident et l'Iran, on avait l'impression que si on faisait quelques concessions à l'Iran, on allait obtenir une meilleure coopération de l'Iran pour résoudre les conflits régionaux. Or, depuis le début, moi, je n'y crois pas. Je pense que les Iraniens sont indifférents à nos préoccupations depuis des années et des décennies. Et je pense que le fait d'avoir assoupli la position de l'Occident ne règle pas les choses. Au contraire, on les voit. Ils agissent de la même manière que les Russes, d'une manière quasiment criminelle. Je suis désolé, il y a quand même des milices iraniennes qui sont impliquées en Syrie. Et on ne peut pas faire confiance à ces forces-là pour apporter la paix dans un pays qui leur est de toute façon stratégiquement très important. Ils vont jamais renoncer à cela. Donc je pense que les Iraniens, là aussi, ils nous mènent au bateau comme le font les Russes. Et je ne pense pas qu'on puisse obtenir un dialogue possible avec eux pour régler le problème de la crise syrienne.
François Géré ?
Le problème, c'est quand même un problème, je suis obligé de dire, de réel politique. Si on ne peut pas stabiliser la situation syrienne avec les Iraniens, avec les Russes, parce qu'on ne peut pas leur faire confiance, si on peut faire confiance à personne, on va arriver à la situation effectivement finale que décrivait Myriam Benrad, c'est-à-dire il n'y aura plus de Syrie. Mais s'il n'y a plus de Syrie, est-ce que ça voudra dire pour autant que Daesh aura disparu? Est-ce qu'on n'est pas en train de créer une situation d'éclatement de la Syrie, une situation de maintien de Daesh qui donc va continuer à développer son activité naturellement en Irak, mais aussi qui pourra développer son influence, par exemple, sur le Liban? ou bien encore dans des pays où il y a un début d'implantation de Daesh, comme par exemple la région de Sirte en Libye. Tout ça, il faut trouver effectivement le moyen de bloquer le processus. Et je ne vois pas comment on peut dire les Iraniens, je ne dis pas qu'on ne peut pas leur faire confiance, c'est certain, mais ils sont sur le terrain, ils ont engagé des forces. Et quand on dit, par exemple, qu'on va se mettre éventuellement dans une position d'associer les forces militaires de Bachar el-Assad, est-ce qu'on va aussi se mettre dans une position d'associer les gardiens de la Révolution, qui sont aujourd'hui entre 5000 et 10000 présents sur le terrain, avec leurs cadres, avec leurs officiers, qui d'ailleurs prennent des risques, puisque récemment, un d'eux a été abattu. Donc, est-ce qu'on peut s'engager avec quelqu'un pour obtenir un résultat? Moi, ma préoccupation aujourd'hui, c'est cette espèce de dénomination vague de guerre contre le terrorisme, de guerre contre Daesh, nous conduit à perdre de vue des objectifs véritablement réalistes et de se poser la question qu'on doit se poser pour toute guerre, quel est le gain que l'on espère obtenir? Quand va-t-on dire « cette guerre, nous l'avons gagnée, nous la déclarons terminée ?» Sinon, on va se retrouver dans un processus déliquescent, avec à un moment ou un autre des pertes, avec l'aggravation de la situation en Syrie, et on aboutira à une espèce de désastre régional et de déstabilisation généralisée de la zone moyenne-orientale, ce qui fait précisément le jeu d'organisation type Daesh.
Alors, puisque vous parlez de guerre, François Géré, je vais plus loin. Parler de guerre, effectivement, ça soulève des attentes de victoire. Alors, dans une guerre, les gens attendent un commencement, un milieu et une fin. La lutte contre le terrorisme, elle est pratiquement sans fin. Et finalement, l'emploi de ce terme de guerre, pour ne parler que de la France, au lendemain des attentats du 13 novembre, ça a finalement surtout permis au gouvernement français de faire passer sur le plan intérieur les mesures d'état d'urgence. Mais sur le terrain, les choses sont plutôt assez différentes. Je ne sais pas qui veut répondre, éventuellement Myriam Benrad.
Oui, enfin, je crois que ce qui effectivement transparaît, c'est que cette guerre contre la terreur qui avait été lancée par l'administration Bush, c'est un processus sans fin et c'est un processus sanglant. C'était déjà le cas d'ailleurs du temps de l'occupation américaine en Irak, j'aimerais quand même le dire, parce qu'il n'y a rien de nouveau. La nouveauté, c'est qu'on est touché aujourd'hui en plein cœur par les effets de cet effondrement moyen-oriental qui était prévisible. Tout le monde savait plus ou moins que de l'effondrement du régime de Saddam Hussein et de l'effondrement du régime de Bachar el-Assad, qui étaient les deux plus durs de la région, sortirait ce qu'on observe aujourd'hui, c'est-à-dire des rivalités, des luttes intestines extrêmement violentes et qui se déploient au détriment des populations civiles. La tyrannie, elle a deux visages aujourd'hui. Hein. Elle a le visage de l'autoritarisme qui revient, qui reflue de manière très très impressionnante. Et puis, évidemment, le visage de ces acteurs qui se sont projetés dans le vide, à commencer par l'État islamique. Il y a un point très important quand même qui a été soulevé, c'est effectivement qui sont nos interlocuteurs et le cas des milices chiites. Il faut quand même dire que l'Iran a participé directement par sa politique hégémonique, par le fait qu'il a investi le vide à partir de 2003 et de la guerre d'Irak, donc de l'effondrement du régime de Saddam Hussein, qui était son ennemi historique. À partir de là, l'Iran a déployé une politique qui a aliéné les sunnites et qui a aussi contribué à l'émergence de l'État islamique. Donc il ne faut pas non plus avoir des visions naïves qui consistent à dire que l'Iran ou je ne sais quel autre État n'ont pas de responsabilité dans l'émergence de ce monstre qui est l'enfant de tout le monde, hein, quelque part. Et au niveau des mesures qui ont été prises en France, alors évidemment on est encore dans l'émotion en France et dans le choc, ce que je peux comprendre, mais il faut quand même dire qu'on a exporté aussi notre violence vers le Moyen-Orient. Ces jeunes qui ont commis les attentats ne sont pas qu'un produit du chaos moyen-oriental, c'est aussi le produit de nos propres errements. Donc je crois qu'il faut aussi maintenant changer un peu d'approche, être un peu plus sincère dans les constats qu'on dresse, parce que les choses sont plus compliquées, qu'il n'y a pas un ennemi, un adversaire et des alliés, des amis de l'autre côté, et que les choses seraient finalement binaires et très simples. Non, tout est très compliqué, les responsabilités sont lourdes et partagées, et nous avons aussi, en tant qu'Occidentaux, une part de responsabilité historique immense, mais nous avons joué avec le feu, nous avons été des apprentis sorciers dans cette région, et nous sommes en train de payer tous le prix de de politiques qui ont été des politiques irresponsables, des politiques improvisées, à commencer par l'Irak, on peut aussi parler de la Libye, et voilà le résultat. Aujourd'hui, eh bien, nous n'avons plus de politique, tout simplement, et nous sommes face à une situation qui nous échappe et qui profite aux acteurs non étatiques.
Donc un constat évidemment réaliste, pessimiste. On évoquait plutôt dans l'émission la notion d'impasse. François Géré.
Je voudrais quand même insister sur deux points. C'est que, précisément, quand il y a la perspective très désagréable d'une impasse, il faut essayer d'en sortir. On a évoqué tout à l'heure la chute de Saddam Hussein. On a évoqué la chute d'Assad, bon, qui n'est pas encore totalement tombé, mais quasiment. On pourrait rajouter également la chute de Kadhafi. Alors là, on est face à effectivement à un problème qui est celui de cette espèce de rêve ou d'illusion de la démocratie dans les pays du Moyen-Orient et dans les pays d'Afrique du Nord. Si on constate ce qui s'est passé dans tous les pays où les Occidentaux sont intervenus au nom de la démocratie, au nom de la liberté, on constate que ni la liberté ni la démocratie n'ont triomphé et que c'est soit le chaos, soit, par exemple, comme en Égypte, l'arrivée d'un Moubarak II, puisque finalement la situation était tellement ingérable qu'on a considéré qu'il valait mieux le général président El-Sissi plutôt qu'une situation ingérable avec des frères musulmans qui n'étaient ni compétents sur le plan politique, ni compétents sur le plan économique. Alors, dernière chose, je voudrais vraiment me placer en contre, je suis désolé, cette idée, nous sommes tous coupables. Si on veut sortir de l'impasse, il faut pas remonter aux accords Sykes-Picot de 1916, créant la Syrie, créant le Liban, etc., etc. C'était peut-être injuste, ça a été fait, mais aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, on est face à une situation extrêmement grave, et de dire que chacun porte ses responsabilités, qu'il n'y a pas de hiérarchie dans les adversaires, c'est une erreur de politique, c'est une erreur de stratégie. Et avec ça, on n'y arrivera jamais. Il faut considérer qu'il y a des priorités. La priorité immédiate, c'est Daesh. La priorité numéro 2, c'est l'idéologie qu'il y a derrière Daesh et la façon dont elle est diffusée au Moyen-Orient, dans les pays occidentaux avec des communautés musulmanes. Et c'est à ce problème-là, c'est au problème de la propagande salafiste extrémiste qu'il faut véritablement s'attaquer. Et c'est pas avec des bombes qu'on peut le faire, c'est avec une capacité politique de contre-idéologie et en faisant comprendre à un certain nombre de nos partenaires dans la péninsule arabique que continuer dans cette voie-là ne peut qu'aggraver la situation et, d'une certaine façon, être y compris dangereux pour leur propre stabilité politique.
Bahir Amalji, pour conclure.
Oui, le travail à long terme, c'est effectivement un travail de réflexion, d'idéologie, de lutte contre le salafisme, parce que c'est quand même en grande partie à la source de tous les problèmes qu'il y a au Moyen-Orient, mais en même temps, sur le court terme, je suis désolé, le grand problème, comme dit Marek Bachar al-Assad, tant qu'il est au pouvoir, tant qu'il est là, je suis sûr qu'on ne pourra pas trouver une solution. On oublie une chose fondamentalement importante, c'est qu'en fait, c'est quand même Bachar al-Assad qui est aussi alimenté et libéré des djihadistes qui étaient en prison, qui alimente, qui continue aujourd'hui, à l'heure actuelle, à l'heure où on parle, aussi bien lui que même Poutine, il continue à alimenter ce phénomène parce que ça leur permet de rester sur le devant de la scène, de rester au pouvoir. Donc, ne serait-ce qu'au niveau, certes, le départ de Bachar al-Assad, ça ne va pas régler tous les problèmes, ça porte le début d'une nouvelle dynamique qui pourrait peut-être nous aider un peu à trouver un semblant, un début de solution pour les problèmes du Moyen-Orient.
Merci. Nous aurons en tout cas l'occasion, bien évidemment, de reparler de tout cela. Merci. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Myriam Benrad, qui était avec nous par téléphone. Myriam Benrad, qui est politologue, spécialiste du monde arabe, chercheur à l'IREMAM à Aix-en-Provence et à la Fondation pour la Recherche Stratégique. François Géré, directeur de recherche à Paris 3 Sorbonne, directeur de l'IFAS, l'Institut Français d'Analyse Stratégique, et Bayram Badjé, chercheur au CNRS, série Sciences Po. Je signale également le dernier numéro, le 1, consacré à Daesh. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique le débat, émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Demain, nous parlerons de la conférence sur le climat qui s'ouvre à Paris. À demain.